7h17, bonjour Pierre-Yves.
Bonjour Paul.
Alors, on revient ce matin sur ton dossier préféré, le Bitcoin.
Pas mon préféré, Paul, c'est le préféré de beaucoup d'auditeurs qui m'en parlent tout le temps, qui m'envoient beaucoup de sympathiques messages. Évidemment, Paul, hier, il y a eu comme une petite descente. Tu sais, le Bitcoin a chuté à 10 300 $ américains. On parle quand même d'une monnaie qui, il y a moins d'un mois, valait 19 000 $ américains. Donc, quand des gens ont emprunté pour acheter ça, ça démontre un caractère extrêmement spéculatif. Il y a une forte volatilité parce qu'on est basé purement sur de l'offre et de la demande. Et malgré tout ça, ce qui génère beaucoup de volatilité, c'est des nouvelles. Par exemple, dès qu'on annonce qu'un gouvernement veut renforcer la réglementation sur les crypto-monnaies, il y a une baisse. Dès qu'on annonce une nouvelle positive, que quelqu'un accepte la crypto-monnaie en paiement, il y a une hausse. Donc, les gens sont extrêmement sensibles aux nouvelles et dès qu'il y a un mouvement de hausse ou un mouvement de baisse, il y a des gens qui veulent embarquer dans ce qu'on appelle la montagne russe. Mm-hmm. S'ils voient la montagne russe monter, ils veulent embarquer dedans. Quand ça descend, ils veulent embarquer dedans. Mais ceux qui ont fait de l'argent avec ça, ils l'ont déjà fait. C'est le monde qui ont mis 100$ puis que c'est devenu 10 000 qui ont fait de l'argent. Le monde qui ont mis 15 000, 10 000, 12 000 vont peut-être doubler leur placement sur plusieurs années. Mais tu sais, n'auront pas cette espèce de gain loterie que les autres ont eu. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui regardent des gens qui ont gagné la loterie puis ils disent « Je vais aller m'acheter un billet, moi aussi, tout d'un coup que je gagnerais. » Mais plus le temps avance, moins tes chances de gagner à la loterie sont élevées. Et là, on se dirige vers les autres crypto-monnaies qui valent à peu près rien par rapport au Bitcoin. Et ces crypto-monnaies-là vivent la même réalité. Toutes les courbes de crypto-monnaies hier sont à peu près égales, c'est-à-dire des chutes. On parle, ça a baissé de, des fois 45 % 50 % 30 % Si vous avez beaucoup d'argent, ça vaut la peine. Sinon, c'est une autre game. Tu sais, par exemple, l'AMF dit « Faites attention. » L'autorité des marchés financiers nous met en garde. « Attention, vous avez peur d'investir dans des actions de compagnies publiques, mais vous n'avez pas peur d'investir dans la crypto-monnaie. Soyez cohérents. C'est extrêmement volatile. Et faites attention à ce qu'on appelle les « initial coin offerings », c'est-à-dire les ICO, c'est-à-dire les gens qui veulent être les premiers à investir dans une crypto-monnaie qui n'existe pas vraiment encore, mais qu'on promet qu'elle va exister pour la payer vraiment pas cher. C'est tellement un stade embryonnaire que vous investissez dans l'espoir et c'est un risque. Par contre, comme on dit, il y a des gens qui ont fait de l'argent avec ça, tant mieux, mais dites-vous que c'est volatile. Donc, faut avoir le cœur solide.
Oui, puis si t'as de l'argent à perdre aussi, tu sais, dans le sens où...
10 000 quand t'as 3 millions de côté, il y en a pas de problème.
C'est peut-être moins grave, là, tu sais.
10 000 quand t'as emprunté l'argent sur ton prêt hypothécaire ou même t'as une marge à découvert, tu sais, puis tu veux emprunter pour acheter ça, c'est vraiment une autre paire de manches.
OK. Quelle devrait être la stratégie fiscale pour favoriser la bonne santé?
C'est ça la question, parce que là, j'ai eu une réflexion hier, Paul. J'étais au gym et je voyais tous les gens lever de la fonte pour aucune utilité, sauf son corps, évidemment. Et je me suis dit, c'est drôle pareil, hein? On avantage fiscalement les médicaments. On avantage fiscalement les pharmaceutiques. On donne des avantages, les assurances paient le coût de ça et nous collectivement dans nos salaires, on subventionne les assurances, on paie des assurances pour que les assurances paient les compagnies pharmaceutiques. Donc, au bout du compte, on favorise les médicaments, la pilule. Le gouvernement est prêt à favoriser la pilule. Mais l'activité physique, c'est avoir une bonne condition physique, protéger contre les maladies cardiovasculaires, protéger contre certains types de cancers, réduire le risque de diabète, réduire la pression artérielle, maintien du poids et de la forme, réduire l'embonpoint, les problèmes de dos, les problèmes d'articulation, la dépression, tout ça est lié avec l'activité physique, mais il y a des médicaments qui existent pour ça. On va subventionner les médicaments, mais pas l'activité physique.
L'ancien gouvernement Harper avait pas mis sur pied une espèce de programme, je pense pour les jeunes surtout.
Oui, pour les jeunes au Québec aussi, puis pour les aînés. Okay. Mais ceux qui travaillent, qui sont sédentaires, tu sais, ceux qui travaillent pour payer à la maison, eux autres, on les met de côté. Et je sais que, tu sais, par exemple, le rapport Godbout dit, écoutez, il faut démontrer le lien entre un crédit d'impôt ou un avantage fiscal et l'impact social. Ça, c'est vrai. Peut-être que c'est pas parce que je donne un crédit d'impôt, une déduction, que les gens vont aller plus s'inscrire au gym ou s'entraîner ou faire de l'activité physique. Par contre, la prévention a une valeur. C'est pas spectaculaire, mais ça coûte moins cher. Si une population fait attention à elle de façon corporelle et d'alimentation, on sauve beaucoup d'argent dans les traitements par la suite. Donc, oui, fiscalement, c'est peut-être difficile à prouver. Par contre, au point de vue de la logique, la mission, c'est d'améliorer certaines conditions de l'humain. Et les médicaments permettent ça. Et l'activité physique aussi. Il y en a un qu'on donne des avantages, l'autre qu'on donne pas d'avantages. Évidemment, on pourrait nous dire, si on donne des crédits pour l'activité physique, il risque d'avoir une augmentation des coûts de l'activité physique. C'est possible. Mais il y a aussi l'autre lien, c'est de dire, on peut moduler aussi l'aide. Ça peut être un crédit d'impôt plafonné. Par exemple, on donne un maximum de 500 $ par année de dépenses admissibles. On peut jouer avec le taux de crédit. On peut jouer avec le revenu maximum qui peut utiliser ça. Évidemment, la déduction serait moins avantageuse. On pourrait parler d'un crédit d'impôt remboursable. Parce qu'une déduction, le problème, c'est que plus t'es riche, plus t'as un avantage. Donc, on
paye.
Mais en résumé, ce que tu lances comme idée, c'est trouver une stratégie, ou en tout cas des outils fiscaux, là, pour appuyer, soutenir et encourager les gens à faire d'exercice.
Oui, au lieu de payer les médicaments. Pour être cohérent, en fait, c'est pour la justice fiscale. Et Paul, j'ajouterais, tu sais, plus la société va se densifier, plus ça va être difficile d'avoir de l'espace chez soi pour faire de l'activité physique, et plus un paiement ou un abonnement d'une activité ou d'une place commune va être logique. Et si on donnait un petit coup de pouce fiscal, tu sais, une petite tape dans le dos, dire profite de ton avantage fiscal, va t'abonner au gym, tu sais, il arrête quoi là-dedans?
Okay.
Et dernier point.
Oui, vas-y.
Je vais faire un dernier point, là. Tu sais, là, je vois dans un article dans le Journal de Montréal qui parle de maintenir les shoebox. Tu sais, les maisons, là, en bas de, qui sont juste un étage. D'un point de vue purement économique, là, c'est beau maintenir le patrimoine, Paul. Mais d'un point de vue purement économique, t'as une maison qui occupe un territoire à Montréal. Elle occupe, disons, 1000 pieds carrés. Et tu dis, on bâtira pas en hauteur ces maisons-là pour maintenir le patrimoine, on veut les sauver. Mais dans le fond, est-ce qu'on pourrait pas se dire, écoutez, pour la densité urbaine, pour l'efficacité économique, pour l'efficacité et la réduction du coût par habitant d'une habitation, avoir peu de bâtiments en hauteur, ça a un prix aussi. Alors, qu'est-ce qu'on veut maintenir? Le patrimoine ou aider les gens à avoir un logement accessible?
Toi, tu veux raser des petites maisons pour faire des tours?
Ben, pas des tours, mais tu sais, t'as deux triplex. Ça, c'est, y a-tu quelque chose de plus laid qu'une petite maison entre deux triplex, tu sais? C'est comme une maison naine entre deux géants. C'est comme Jean Beaupré, puis tu sais, le grand Antonio, puis moi entre les deux, tu sais, ça fit pas.
Salut. 7h24.